France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on célèbre un personnage qui, en 40 ans, est devenu bien plus qu'un héros de jeux vidéo. Un personnage reconnaissable entre mille, une moustache, une salopette bleue, une casquette rouge et un talent assez unique pour sauter trois fois sa taille et sauver des princesses depuis les années 80. Mario apparaît pour la première fois en 1981, Super Mario aujourd'hui. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Mario justement, mais Jumpman, il est charpentier, il grimpe des échelles et il essaie déjà de sauver une femme en détresse. Quelques années plus tard, il devient plombier, il gagne un frère nommé Luigi et surtout, il devient la mascotte d'une entreprise japonaise qui va changer l'histoire du jeu vidéo. Nintendo, en 1985, sort Super Mario Bros, un jeu qui va révolutionner l'industrie. Plus de 40 millions d'exemplaires vendus, des générations de joueurs marqués, une franchise qui dépasse aujourd'hui, les 450 millions de jeux écoulés dans le monde depuis. Mario est partout, dans Mario Kart, dans les parcs d'attractions, au cinéma, avec un film qui a dépassé le milliard de dollars, et bientôt dans une nouvelle aventure animée inspirée de Super Mario Galaxy. Alors ce soir, on va se demander comment un plombier moustachu est devenu l'une des plus grandes icônes de la pop culture mondiale. Pour en parler autour de la table, quelqu'un qui était là il n'y a pas très longtemps, un artiste, un producteur, un mogul, j'ai envie de dire, Tequila Tech, c'est un grand fan, je crois, de Mario. Comment vas-tu?
Ouais, je suis super bien, je suis toujours content de parler de mon vieil ami Mario que je connais depuis mes 8 ans et qui m'a suivi dans toute ma vie.
Bon, avec toi, nous avons aussi Lola Caracedo qui est animatrice et qui a travaillé notamment sur les films Mario. Comment vas-tu, Lola?
Tout à fait, très bien, merci beaucoup de nous recevoir, je suis ravie d'être ici aussi.
Merci d'être là. Et on a également le retour qui était déjà vu pour parler de Tron à l'époque, de Daniel Andrieff, journaliste notamment avec le podcast. C'est un nom très compliqué pour moi.
Pourquoi? Soumis Massen Turbo?
Voilà, merci. Ah. Merci beaucoup d'être là.
Mais c'est un grand plaisir.
Bon, on va parler de Mario aujourd'hui, tout de suite, à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Alors ça, c'est un extrait de la soundtrack de Super Mario Galaxy qui m'a été soufflé par Teki. Car Teki, il va tout faire aujourd'hui. Je vais vraiment me reposer sur vous.
Mais non,
sur vous
mais...
non, mais alors...
Ce morceau, il est incontournable, il est trop beau.
Ça te fait quelque chose, hein.
Ah, ça me fait...
Tu joues ça dans ZDG7, je crois. Ça t'est déjà arrivé ou pas?
Ce morceau en particulier, pas vraiment, mais je pourrais.
Alors, une première question que je vous pose un peu à toutes et à tous, peut-être commencer avec toi, Lola. Quel est votre premier souvenir avec Mario? Comment vous découvrez chacune Mario?
Moi, mon premier souvenir avec Mario, il remonte à très très loin. La première fois que je l'ai rencontré, Mario, j'avais 6 ans.
Ouais.
Et mes parents m'avaient offert une Game Boy.
Oui.
Et sur ma Game Boy, j'avais deux jeux. J'avais Tetris et j'avais Super Mario Land. Et on avait un petit rituel le soir avec mon père où on lisait une BD d'Astérix Obélix et après on faisait une partie Game Boy.
Donc moi, Quelle enfance! Incroyable!
Ouais, extraordinaire! Et j'ai découvert Mario comme ça, en fait. J'ai découvert le jeu vidéo avec Mario.
Ok, vraiment, c'est ta porte d'entrée vers le jeu vidéo globalement sans même se poser la question.
Complètement.
C'est Mario et c'est la Game Boy.
Ouais, complètement.
Daniel, toi, ça commence comment, Mario?
Déjà, c'est une manière de nous dater, de savoir à quel point on est vieux. Moi, j'étais un rebelle. J'étais un cool kid, donc j'étais pas de Nintendo, moi. J'étais Sega.
Ok.
Et pourquoi? Parce que les consoles Sega étaient moins chères. Et les jeux étaient moins chers, donc une petite ristourne. Et donc, on allait chez les gamins les plus riches de la classe qui avaient la Nintendo. Et c'est vrai que les jeux Nintendo coûtaient plus cher. Et là, c'est là que j'ai découvert. Je suis mon ami Olivier et j'ai découvert Super Mario Bros. Et un jour, on était en week-end chez lui et on a joué en boucle à Super Mario Bros. En boucle, car le jeu boucle finalement.
Oui, oui, oui.
Et donc, on faisait 1-1, 1-2, 4-1, 4-2, 8-1, 8-2, 8-3 et 4. Et ensuite, on continuait et on jouait à savoir combien il y avait de boucles possibles. Et à un bout d'un moment, il a fallu aller manger, donc on n'a pas su. Mais en tout cas, mon contact avec Super Mario, c'est le fameux saut du niveau 8-1, 8-2. Ça, c'est vraiment le gros choc, quoi. Il y a un saut immense à faire. Il se joue au millimètre près.
Ouais.
Et comment tu peux faire? C'est juste de l'entraînement et la perfection du gameplay à Nintendo. C'est-à-dire, le saut, il doit être exactement la bonne arc, il faut appuyer au bon moment.
Ouais.
Et pour moi, je pense que c'est mon premier gros choc de gameplay. Enfin, bien sûr, il y a eu des shoot'em up, il y a eu des trucs.
Bien sûr.
Mais là, en tant que jeu de plateforme, en tant que jeu de « tu dois survivre », je trouve ça extraordinaire.
Toi, t'es qui, si on parle de premier souvenir et de pourquoi... Tu as dit, c'est ton ami Mario. J'ai vu aussi une interview de toi récemment. C'est aussi pour ça que je me suis dit, il faut qu'on t'invite. Où tu parlais vraiment de Mario comme quelqu'un d'important, en fait, pour toi. Quelle rencontre il y a eu entre toi et Mario, justement?
Pareil, chez un ami qui avait la Nintendo. Et en fait, moi, j'étais obsédé par les jeux vidéo depuis le début. J'avais 8 ans à l'époque, donc pas le droit d'aller dans les salles d'arcade, mais quand même une sorte de fascination. J'avais les Game & Watch, qui sont, avant les consoles Nintendo, des petits jeux électroniques portables avec un écran LCD très rudimentaire, auquel tu peux jouer à mettre des pommes dans un panier, quoi. Tu vois et ces trucs-là. Et puis, il y avait les ordinateurs Thomson qui avaient des espèces de jeux où tu passais d'un écran à l'autre. C'était très, pareil, très... très basique,
ouais,
quoi.
Il y avait rudimentaire,
la...
ouais.
La console Intellivision aussi, à la même époque que la console Atari, où là, tu jouais à Pong et tu jouais à un truc de skieur qui n'avait aucun sens. Et il n'y avait pas de notion de scrolling. Et la vraie notion de scrolling, la vraie impression que le jeu n'a pas de limite, c'est Super Mario.
Ok.
La vraie impression qu'il y a un paysage qui défile et que tu as une notion d'aventure et de secret et de warp zone et de comment on va passer d'un niveau à l'autre. Ah mais si tu appuies sur tel truc, si tu tapes sur telle brique, tu vas avoir tel secret qui n'est pas dit dans la notice, que tu n'es pas censé découvrir, mais Nintendo te pousse à faire ces découvertes par toi-même. Ça, c'est Mario. Et le truc m'a suivi. Le personnage, je le trouve hyper sympathique, hyper... son design est parfait. Il rentre dans un rectangle un peu mignon. Mmh. Il est parfait, tu vois ce que je veux dire. Puis ensuite, Mario 2 arrive. C'est la révolution. Mario 3, il y a The Wizard, le film. Un film qui a été produit pour faire un petit peu la promotion de Mario 3 qui sort. Toute la mythologie dans la cour d'école, j'avais la chance d'être dans une école internationale avec des gens qui venaient de l'étranger et qui ramenaient Mario 3 avant qu'il sorte en France.
Ouais.
Donc on y jouait sur des cartouches trafiquées avec un adaptateur qu'on était allé acheter à l'autre bout de Paris pour faire fonctionner les jeux japonais dessus. Et voilà, toute l'histoire autour, en fait, c'est aussi ça. Et ça te suit dans toute ton enfance. Et puis au final, tu finis par jouer à Super Mario Odyssey quand la Switch arrive. Et tu pleures à chaque easter egg. Et tu pleures à chaque petite référence à l'histoire de Mario. Et tu te rends compte qu'il a toujours été là pour toi, Mario, en fait.
Alors, Teki parle justement du personnage Mario. La question, elle est évidemment ouverte pour tout le monde, mais qu'est-ce qui fait que ce personnage-là, qui, d'un point de vue, au premier abord, est peut-être pas forcément le personnage le plus sexy, parle d'un plombier, moustachu, salopette, est devenu une figure aussi universelle. À votre avis, qu'est-ce qui explique le fait que autant de personnes à travers le monde aime profondément ce personnage?
Bah, y a un paradoxe, c'est que Shigeru Miyamoto, donc le co-créateur et grand mentor de Super Mario, a toujours dit bah, nous on fait des personnages, on fait pas des designs en particulier pour qu'ils soient aimés, on fait surtout des designs pour qu'ils soient efficaces. Teki parlait du fameux rectangle dans lequel se trouve Mario. Beaucoup d'explications sur le design de Mario se trouvent dans ce fameux rectangle et dans les limites du nombre de pixels. C'était 8 par 8.
Il y a des contraintes,
il y avait des contraintes techniques qui expliquent que on lui a collé une moustache, une salopette. Il y avait plein de contraintes comme ça. Et les personnages existent de fait parce que ils ont été créés dans le cadre d'un jeu, en fait. Et on peut dire ça aussi, la même chose pour Zelda, et pour même tous les personnages même récents, même Pikmin, c'est des personnages qui ont été créés pour avoir une fonction. En fait. Et en fait, c'est vraiment le lore, tout ce qui est devenu le lore de ce qu'on voit un peu dans le film, c'est-à-dire les personnages, les ennemis, tout ça, c'est venu se greffer au fur et à mesure, et c'est ça qui a donné un peu de contexte. Et puis, arrivé vers Super Mario 64, où on voit déjà un monde qui est en train de qui se crée littéralement, et ben là on se dit ah ouais, là en fait c'est là que la vraie popularité de Mario commence à exploser à partir de ce moment-là, où tout d'un coup tout le monde peut s'y plonger. Il y a des séquences narratives, enfin il commence à avoir une histoire.
Oui, une histoire,
voilà, on brode autour d'un lore. Donc je pense qu'ils n'ont pas été créés pour être populaires, c'est ça, je pense, qui est peut-être la clé de leur popularité.
C'est le paradoxe, en fait, mais qui fait que ça devient populaire, c'est qu'ils n'ont pas été pensés pour ça.
Et la fonction et le gameplay précède l'histoire qui est racontée.
Et, oui. Et puis donc, toute cette aujourd'hui, ce qu'on voit, les jouets, les goodies et tout ça, c'est venu que récemment. Faut voir que Nintendo s'est vraiment intéressé à faire des goodies Nintendo, que mais il y a 15 ans, mais pas, pas longtemps avant, en fait. Vraiment, ils se sont dit, ah ouais, vraiment, si on mettait des t-shirts griffés Nintendo, ça se vendrait ? Eh ben, ouais. Surprise, ça se vend, ça se vend à balle. Alors du coup, si on fait un parc d'attractions Nintendo, les gens viendraient ? Surprise encore. On fait un musée au Japon ? Tu peux pas acheter de tickets, tellement il y a de gens. Donc oui, c'est une machine à faire du succès, mais c'est parce que c'est des années d'entretien d'une licence et de confirmation. C'est-à-dire que c'est pas genre un jeu, c'est genre ils ont fait une série de jeux, ils ont fait les Super Mario Bros. En série, ensuite le Super Mario 64, ensuite ils ont continué et ils ont développé le lore, je veux dire, entre Mario et ce qui existe aujourd'hui, Mario fait du tennis avec Waluigi et Wario, enfin je veux dire, il y a 40 ans qui les séparent. Quoi.
Tout à fait, et puis il y a énormément de spin-off. En fait, de jeu dans le jeu, en fait.
On peut admettre que Mario et ses ennemis, ils jouent la comédie, ils font du Smash Bros, ils se battent entre eux pour... Ouais, il y a tout un truc, ils font du golf, ils font... Ouais, c'est des années de patience, c'est vraiment une licence qui a été arrosée petit à petit. Maintenant, je pense qu'avec à partir du film, là, on peut dire que c'est vraiment une espèce de... C'est un blockbuster, quoi.
Bon, on va continuer d'en parler, évidemment, jusqu'à 23h. Avant ça, on va écouter un morceau. Et alors, quand on parle de Mario, on parle de Luigi. Évidemment, je n'ai pas été très fin. Je propose d'écouter un morceau du rappeur Luigi. Voilà, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Morceau avec son acolyte Turi qui s'appelle Joueur 1. Voilà, Joueur 1. J'ai fait un petit effort.
Oh là là, t'as fait un effort de...
Léger. Luigi et Turi, Joueur 1.
C'est l'angoisse tous les jours, c'est la course 1, télé 2, télé 1, graille sur le pouce, 3 balles pour le crous, trop pauvre pour l'école, trop riche pour la bourse, mes darons à mes trousses, j'peux rien dire, j'ai la frousse, première année L1, deuxième année L1, troisième année L1, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, carré croix, je m'efface, rage quitte. De mon âge, je pense à faire des gosses après le mariage, acheté dans la pierre, légué un héritage, je rêve de la vie d'artiste, des liasses, des lingots d'or, des habits larges, et toute ma vie j'ai menti,
toute ma vie premier, dernier de la classe, ma mater doit garder la face, donc je vais à la fac, dégueulasse, soirée étudiante, mauvais vin, je veux choper le DAS, ma copine me lâche, Fex. Je n'ai pas de cash, Fex. Un de mes meilleurs gars la tchatch, j'ai perdu le match,
un des meilleurs gars qui rappe dans la ville d'en face,
pour s'en sortir ici il faut de vrais maracas,
un fusil de chasse, cross qui dépasse, je fais rentrer ce cash efficace sur les sujets qui fâchent,
démarche d'alpatch, je ne mets pas de père falche, des Air Force passe et ma tchatch lave comme un car wash,
j'envoie 4 plaques sur paire de main, Gigi, je défends la zone comme Nesta Maldini, partout dans ma tête c'est les États-Unis, je rentre dans le top genre est-ce qu'on m'a suivi, mais est-ce qu'on m'a suivi,
est-ce qu'on t'a suivi,
est-ce qu'on t'a suivi,
ou est-ce que t'as
rage quitte.
C'était donc Luigi, parce que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Mario.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Alors, on a commencé un petit peu à en parler quand on parlait donc de Mario, des premiers jeux, notamment du design, des graphismes. Lola, toi qui est animatrice, alors justement, qu'est-ce qui fait, toi tu as travaillé sur des films,
tout à fait.
Et qu'est-ce qui fait justement qu'il est aussi intéressant peut-être. Pourquoi le personnage visuellement, il est aussi marquant déjà ? Qu'est-ce qui fait que ces jeux-là, ils ont même été étudiés en termes de game design ? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est autant aussi intéressant visuellement ? Ces jeux-là.
Bah, pour moi, c'est un peu tout ce qu'on a dit déjà précédemment. C'est des jeux qui sont très colorés, donc c'est très agréable. Il y a les musiques, visuellement, c'est très plaisant. Et Mario, on parlait du fait que Mario, c'est un personnage qui a touché tout le monde, qui a touché des générations. Je pense que c'est aussi le fait que Mario, c'est un bon copain. Il a pas de dark side, il a pas de trauma, c'est facile de s'identifier à lui. Et à travers lui, c'est un mec qui veut juste aider, quoi. C'est le bon pote qui veut aider. Et à travers lui, en fait, il nous permet d'aller dans 15 000 univers différents. C'est ça qui est hyper chouette et c'est pour ça qu'on a envie de le suivre aussi, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est un personnage qui n'est pas, finalement, qui n'est pas très réaliste. Il saute trois fois sa taille, il écrase des champignons. Et j'ai le sentiment, Daniel, corrige-moi si je me trompe, parce que je sais que tu joues énormément encore, qu'on va peut-être vers une tendance, et encore une fois, hein, je parle sous contrôle, vers des jeux de plus en plus réalistes. Mario ne va pas dans ce sens-là. Justement, il y a quelque chose d'assez à l'ancienne, peut-être, dans le fait de pouvoir imaginer des mondes qui sont complètement surréalistes. Est-ce que pour toi, c'est un peu en contradiction avec la tendance actuelle dans les jeux vidéo ?
Déjà, l'école Nintendo de graphisme, c'est quelque chose qui va complètement en contresens de la technique elle-même, c'est-à-dire c'est non réaliste, tout simplement. Plus c'est cartoon, plus c'est efficace. Ouais. Souvent, on disait d'ailleurs que les consoles Nintendo étaient moins puissantes parce qu'elles n'avaient pas ce besoin pressant d'avoir de la technique, d'utiliser des polygones abusivement. Et c'est vrai que pendant des années, Nintendo, c'était la maison des idées, quoi. C'était vraiment les concepts, les jeux forts. Et c'est ça qui faisait souvent Mario. Ajouter du réalisme dans un monde où il y a des champignons, qu'on avale des champignons et qu'on devient grand, c'est toujours quelque chose de relatif. Pour moi,
ça dépend pour qui.
Oui. monsieur est mycologue. Prenons par exemple le premier Super Mario, il y a une règle de base, c'est que Mario ne craint pas la gravité, c'est-à-dire il peut sauter de super haut, mais il n'aura pas de dégâts s'il retombe sur ses pieds. Et au fur et à mesure, vu que la 3D est arrivée, ça a été obligé on va essayer de faire un truc, il ne peut pas sauter de super haut, sinon au bout d'un moment il va se faire mal. Donc on rajoute au fur et à mesure des données, mais tout ça, c'est des contraintes que tu te rajoutes pour ensuite les déformer. Super Mario Galaxy, on joue avec la gravité et tout d'un coup, tu te retrouves la tête en bas et tout d'un coup, tu pèses comme une plume et tout. Et c'est des données qui ne sont pas réalistes, en fait, qui sont réalistes parce qu'elles existent, mais dans le cadre d'un jeu, on peut tout faire. Mmh. Donc, Nintendo, c'est toujours un peu... Il n'y a pas de limite, vraiment. On peut tout faire. Et quand tu peux tout faire, ça peut devenir n'importe quoi, ça peut devenir des mondes ubuesques. Et le jour où tu as des choses qui deviennent un peu réalistes, comme par exemple, je pense à Super Mario Odyssey, où tout d'un coup, on voit un peu, c'est bizarre, cette forêt, elle est vraiment un peu photoréaliste, ils rajoutent des éléments un peu bizarres, comme le dinosaure, le fameux dinosaure qu'on voit dans la bande-annonce de Super Mario Galaxy, qui vient de Super Mario Odyssey.
On continue de parler du Super Mario jusque 23h. Le morceau que vous entendez, il s'appelle Jump Up Superstar. Il est extrait de Super Mario Odyssey, justement, que vient de mentionner Daniel Andreev. Il a évidemment été curaté, proposé par Teki. C'est bien ça, hein ?
Oh, ça me fait chialer, ça. C'est toutes mes passions. La comédie musicale, Broadway, New York, tout ça dans l'univers Mario.
Et la maire de la ville, en plus.
Ouais, la maire de la ville, Pauline, qui est la fameuse personne que tu dois sauver dans Donkey Kong, en fait.
Incroyable.
Dans le premier jeu dans lequel apparaît Mario, Donkey Kong, il doit sauver Pauline. Et en fait, Pauline a été rétroactivement réinsérée dans le lore de Mario, si je ne dis pas de bêtises. Et elle se retrouve maire de New Donk City, qui est le New York de l'univers Mario, et donc la ville de Donkey Kong. Ah. Et dans Mario Odyssey, qui est sorti en 2017, y a un niveau incroyable dans New Donk City, où donc tu te balades dans une ville un peu plus photoréaliste, où il y a des espèces d'êtres humains tout droit sortis d'un film noir avec des fedoras tu vois, tu te balades dans un Manhattan où Mario est le seul qui a ce gabarit-là, et les autres humains sont des humains photoréalistes en costume qui se baladent dans la ville, donc t'explores cette ville. En fait, voilà, avant que Mario Odyssey sorte, ils ont sorti ce morceau et c'était un petit peu la bande-annonce.
Ouais, le teasing du jeu.
Avec Pauline qui chante.
Okay. Très bien.
Donc on a commencé à comprendre, ok, il y a Pauline qui est de retour, elle chante, mais c'est aussi la mère de la ville. Ok. Tu joues à Mario Odyssey, t'as 2-3 niveaux, 3-4 niveaux un peu rigolos, dans la forêt, dans le désert, etc. Puis t'arrives dans cette ville. Et là, dans cette ville, t'as l'impression d'être à Broadway. et tu dois aller chercher des musiciens pour reconstituer le groupe de Pauline. Et une fois que tu as reconstitué le groupe de Pauline, elle dit « Ok, c'est génial, on va pouvoir faire le festival ». Et là, tu te retrouves sur les toits de New Donk City, la nuit, avec un feu d'artifice, tous les immeubles allumés, mais dit t'as grandi avec le rap. Tu sais ce que ça fait de voir la skyline.
Oh, mais j'ai envie d'y jouer, là.
Tu vois la skyline.
Quel narrateur.
C'est un moment de jeu vidéo
ouais,
extraordinaire.
Moi, je suis 3h du mat, je suis en train de jouer à ça, je suis dans New Donk City, il y a cette espèce de morceau hyper Broadway qui joue dans le jeu, et on me propose, et là Mario, qui est jusqu'à maintenant en 3D, passe en 2D et te fait rejouer à des vieux niveaux, à la fois de Mario, Super Mario 1 et de Donkey Kong, en gros, où tu dois éviter des barils qui tombent machin dans le feu. Et il y a cette musique derrière, et je me mets à chialer, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je chiale devant un jeu vidéo, en fait. Okay. Moi, j'ai lâché l'affaire après la Nintendo 64, en gros. Moi, quand les jeux ont commencé à être en 3D, je rentrais dans les murs et je comprenais pas, en fait, comment ça s'était. Je suis un méga boomer du jeu vidéo. Là, j'ai jamais joué à God of War, tu vois ce que c'est.
Même moi, j'ai joué à ça, t'es guillemets.
Moi, j'arrive pas à conduire dans GTA, tu vois ce que je veux dire. Genre, ouais. je rentre dans les... Même Mario Kart, c'est compliqué pour moi, tu vois. Okay. Dès que c'est en 3D, c'est compliqué pour moi. Moi, je suis un gars de la 2D. Et là, me reprendre ce truc-là, avec cette musique-là, avec tout le background que j'ai de fan de rap new-yorkais, qui kiffe les taxis jaunes, les pastrami, les italo-américains qui disent « I'm walking here !» Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce lore-là qui rencontre le gameplay de Mario, mais les larmes, elles sont montées tout de suite, mec. C'est incroyable.
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 J'ai tellement envie de jouer à ce jeu.
Non, mais il est trop bien.
Vraiment. Je voulais parler parce que là tu parles de Super Mario Odyssey, hein, si j'ai bien compris. Il y a, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais aussi un moment important, c'est Super Mario 64. Donc c'est le moment où ça arrive en 3D. En quoi justement ce moment-là il est important et pourquoi c'est souvent considéré comme l'un des jeux les plus influents de l'histoire du jeu vidéo, ce Mario-là?
Super Mario, je vais en parler parce que vraiment là, j'avais 19 ans quand il arrive. Et
tu l'as vécu cette histoire.
Ah, je l'ai vécu. Je me souviens, le livreur qui m'a amené la console japonaise en bas de chez moi, j'avais les larmes aux yeux et tous mes potes sont réunis chez moi et on est restés, on était 6 et on a joué pendant un week-end entier, 6, on n'a bougé pas, on n'en croyait pas ce qu'on...
On n'avait pas pris...
Ouais, on n'avait pas pris la mesure.
L'ombre d'une douche, à mon avis.
Non, c'était...
on imagine assez facilement.
On a été étudiants, Dieu. Et pourquoi ce jeu est si important? C'est que Super Mario Bros, même autant aussi génial qu'il soit, il est quand même en 2D, donc il y a une espèce de grammaire de la 2D qui est déjà écrite par les jeux vidéo avant.
Tu parles
de
Super Mario Bros, donc celui qui est sorti dans les années 80.
Celui dans les années 80, donc le scrolling, voilà, le saut, le fait de sauter sur des gens, ça les écrase et tout. Là, Super Mario 64 est fondamental parce qu'il réécrit la grammaire du jeu vidéo tel qu'elle va être encore utilisée encore aujourd'hui. En fait, tous les jeux proviennent un peu ou prou de Super Mario 64, ceux qui viennent après, ceux qui ont été refaits en 3D, parce que ça pose des questions de base, par exemple, comment se place la caméra, à quoi sert la caméra, qui tu es par rapport à la caméra, enfin des questions de base. La plupart des gens impliqués dans le développement de Super Mario 64 ont tous à peu près lâché ils ont lâché l'affaire après. Ils ont arrêté les jeux vidéo ou alors l'équipe de développement, genre ils ont été à bout, au bout d'un processus.
En fait, c'est leur œuvre un peu ultime, quoi.
Bah ouais, pour beaucoup de gens, même pour ceux qui étaient au cœur du développement, tout, c'était un jeu très très compliqué à se remettre parce qu'ils sont allés au bout de leur créativité, c'est-à-dire il fallait inventer complètement quelque chose d'autre et ça se voit encore. Aujourd'hui, tous les jeux reprennent peu ou prou Super Mario 64. C'est pour ça qu'il est si important. C'est pour ça qu'il est presque indépensable dans son genre.
Tu trouves qu'aujourd'hui, on retrouve encore des retombées de ce jeu-là?
Ouais, pour tout. Genre, par exemple, je joue en ce moment, comme tout le monde, à Pokémon Pocopia, mais quand je vois la caméra et qu'on peut la bouger comme ça, je me dis, ces gens-là, les gens qui ont fait ce jeu, ils étaient là pendant Super Mario 64. Enfin, je veux dire, tous les jeux où tu peux bouger la caméra, tu peux dire d'une certaine manière merci à Mario 64. Alors évidemment, peut-être quelqu'un l'aurait fait, peut-être quelqu'un l'aurait moins bien fait, mais ça a été fait avec ce jeu-là, avec cet univers-là, avec cette richesse-là. Et en plus, Super Mario 64, faut pas oublier, genre il y avait plus de 15 niveaux, et les niveaux étaient ultra créatifs. Il y avait celui où on devenait petit dans un monde gigantesque. Enfin, il y avait plein de...
Il y avait des idées,
ouais. L'horloge, enfin vraiment, ça reprenait tout un truc qui avait jamais été fait à tel niveau et avec une telle méticulosité. Encore aujourd'hui, j'y reviens régulièrement sur Mario 64. C'est un jeu extraordinaire. C'est vraiment, je pense, c'est le chef-d'œuvre de Nintendo et de Shigeru Miyamoto.
Est-ce que vous continuez à jouer à des... Parce que Daniel disait qu'il jouait à, parfois, il continuait à jouer à ce jeu-là, à jouer à des vieux Mario. Lola, est-ce que parfois tu ressors des vieux jeux, toi, au Teki, ou c'est plus trop le votre cas aujourd'hui ?
C'est plus trop le cas. Moi, là, récemment, j'ai refait Mario Odyssey, genre okay. Il y a quelques semaines, que j'ai trop kiffé.
Donc celui dont parlait Teki un peu avant,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, il est incroyable.
Le dernier en date.
Ouais. Mais bon...
Non, il y a eu Mario Wonder entre-temps.
Ouais, mais bon. Et moi, mon Mario préféré, celui qui m'a mis une plus grosse claque, c'est Mario Galaxy, quand il est sorti. Okay.
Il sort en quelle année, celui-là ? Enfin, à peu près, vous vous souvenez ?
Ah bah c'est l'époque de la Wii.
Ouais, c'est okay. Ça.
C'est 2012, je crois.
Oui, quelque chose comme ça, là, oui.
Ouais, quelque
début
chose
2010,
ça.
En tout cas,
ouais.
Sur la
dernière année passée. Ça, c'était incroyable.
Non, c'est avant ça.
Avant,
je sais pas. 2008, peut-être.
2007, 2008,
ouais. Ouais, okay. C'est ça, plus 2007, je
pense. Excusez-moi la chronologie, il y a 30 jeux.
Ouais, moi, c'est surtout celui-là qui m'a mis une énorme claque. Le gameplay était fou, t'en parlais très bien tout à l'heure, mais le fait de pouvoir se retrouver la tête en bas,
ouais.
De jouer, d'apporter du gameplay en jouant avec la gravité, d'être juste dans l'espace, en fait, que Mario aille de planète en planète, moi, ça m'a rendu ouf. Visuellement, c'était incroyable. Et les musiques de jeu sont... extraordinaire. Donc moi, c'est un de ceux
ouais, c'est aussi
que je
important.
Reviens souvent.
T'es qui l'a un peu mentionné, mais c'est vrai que la l'accompagnement musical aussi des Mario, il est important. Il y a évidemment le thème qui est archi connu. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qui accompagne et qui peut-être joue dans la réussite de ces jeux-là, c'est la musique aussi de ces œuvres.
Ah bah.
Je ne l'ai pas mise dans ma sélection, mais on aurait pu mettre Dire Docks, qui est la musique du niveau sous-marin de Super Mario 64. Dont tu parlais. En fait, Super Mario 64 est un peu flippant comme jeu. C'est un peu les backrooms avant les backrooms. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de... Pour un jeu Mario où tu as tout le temps des ennemis partout et tout le temps des trucs qui bougent à l'écran, tu te sens un peu seul dans Super Mario 64. Notamment dans ce grand château qui a quelques jumpscares, quelques trucs un peu flippants. Tu dois sauter à l'intérieur d'un tableau pour rentrer dans le monde qui correspond à ce tableau. Il y a un côté un peu horreur dans Mario 64. Tu peux très vite, si tu laisses ton imagination partir, imaginer des scénarios horrifiques dans Super Mario 64. Notamment le niveau sous-marin, où si tu restes dans l'eau trop longtemps, tu meurs de... Tu te noies, en fait. T'as une jauge, et tu te noies. Et ça, c'est terrible, mec. Et pour accompagner ça, ils te mettent un truc au synthé, ambiante, hyper... hyper beau, mais hyper presque tellement avec une mélancolie presque inquiétante en fait. Et cette musique là elle a aussi beaucoup marqué les gens,
donc c'est important. Il y a toujours
énormément de musique. Moi je suis extrêmement touché par la musique de jeux vidéo. J'en ai fait une mixtape avec Nick Dwyer qui est sorti en 2020, juste avant le Covid. Qui s'appelait Teki & Nick's Mixtape Quest Adventure. Elle est toujours sur mon SoundCloud. Nick Dwyer, c'est un néo-zélandais qui vit au Japon et qui est un archiviste de la musique de jeux vidéo, qui a fait plusieurs podcasts sur le sujet, qui a interviewé tout le monde sur le sujet, qui avait fait un docu-série sur le sujet pour Red Bull, et qui est vraiment un maître de la musique de jeux vidéo. Lui te dira que Dire Docks, c'est top niveau, quoi. Et la musique de jeux vidéo, mine de rien, à l'époque, c'est la première musique électronique que j'écoute. À l'époque, c'est le premier export, c'est le plus gros export de musique japonaise dans le monde, si tu réfléchis. Dans les années 80, les consoles sont japonaises. La musique de jeux vidéo est japonaise.
Ouais, c'est vrai.
Et ça vend beaucoup plus que, à mon avis, j'ai pas les chiffres, mais que le jazz japonais, que Sakamoto ou que la CD Pop, tu vois.
Et d'ailleurs, toi qui viens aussi du rap, la musique de jeux vidéo a été énormément samplée dans le rap. Oui. Ça a aussi été un moyen de parfois de découvrir ces musiques-là ou de les reconnaître. Mais il y a énormément de morceaux qui sont parfois juste des petites boucles. Donc, c'est aussi été un puits de...
J'ai moi-même samplé, mon groupe de rap a lui-même samplé plusieurs trucs de Mario. Ouais. Il y avait les Coco Brevas à l'époque.
Exactement, absolument.
Qui a pris la musique du donjon.
Tout à fait.
Non, mais oui, c'est samplé parce que tous les gens, tous les musiciens, tous les gens de la musique électronique sont des geeks. Mmh. Ils avaient des consoles, ils avaient des ordinateurs. Ils sont tous pris leur première claque techno en jouant à Streets of Rage, en découvrant la musique de Yuzo Koshiro. Ils ont tous été touchés par un jeu vidéo ou un autre. Et quand t'as 8 ans, tu vas pas dans les disquaires, quoi.
Bien sûr.
Tu joues aux jeux vidéo et tu te prends ça dans la gueule, quoi.
Bon, alors, on l'a dit, Mario, c'est des jeux vidéo, mais c'est aussi des films. Maintenant, ça fait depuis 1993, hein, puisqu'il y avait, évidemment, il y avait un animé d'ailleurs dans les années 80, on en parlait exactement avant, mais on va en parler un petit peu après. Mais d'ailleurs, dans le prochain film, il y a l'arrivée en voix de Childish Gambino, de Donald Glover, qui va faire la voix de Yoshi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va écouter un morceau.
Qu'est-ce qu'il est Gambino, fort
Redbone, bah, c'est un métier, hein. Vraiment, c'est 30 ans de radio. Hein. On s'écoute Childish Gambino, Redbone, et juste après, on continue à parler de Super Mario. C'était Redbone, donc, de Childish Gambino, Donald Glover à la ville, qui jouera la voix de Yoshi dans le prochain film Super Mario.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Ça, c'est un extrait d'un blend exceptionnel de Teki, un de nos invités ce soir. Mais justement, je voulais qu'on parle aussi des films, parce qu'en 2023, il y a eu donc The Super Mario Bros. Movie qui a dépassé, je l'ai dit en introduction, $1 milliard donc de recettes, ce qui est exceptionnel. Un nouvel épisode qui arrive donc en avril prochain, là, Super Mario Galaxy. Voilà, toi, tu as travaillé sur ces films, évidemment, ouais. On peut pas tout révéler, évidemment, mais tu as travaillé notamment sur celui qui a été un énorme carton, et ce qui est aussi presque qui crée un précédent, c'est-à-dire que c'est vraiment presque une des premières fois qu'un adaptation, enfin qu'un personnage de jeu vidéo marche autant au cinéma. Comment c'était de travailler là-dessus? Et j'imagine aussi que c'était un sacré défi, parce que, on l'a dit, hein, Daniel l'a un peu dit, finalement, dans les Mario, à la base, il n'y a pas spécialement d'histoire, en tout cas dans les premiers, où elle est assez sommaire. Comment on crée, justement, alors toi, t'es animatrice, hein, ouais. mais quelles étaient les difficultés, les complications en tout cas de réussir à créer un film animé autour de cet univers aussi particulier?
Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'animation pour le jeu vidéo et l'animation sur le long métrage. Là, on va dire que tout le défi et toute la difficulté, c'était d'en faire quelque chose, de faire de ces personnages des personnages avec une profondeur, de l'émotion, oui. D'en faire quelque chose de cinématographique.
Ce qu'il n'y a pas forcément dans les jeux, à la base.
Exactement. Donc c'est ça qui était merveilleux, en fait, à travailler. C'était un challenge et on a des animateurs exceptionnels dans le studio dans lequel je travaille. Et il faut aussi savoir que ce film, il a été fait par des fans. Il a été fait avec beaucoup d'amour. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a autant marché. Les gens qui ont travaillé sur ce film et qui ont fait l'animation ont joué au jeu, aiment les jeux et donc sont allés puiser là-dedans. Ce qui fait que on a réussi à ajouter donc toute cette richesse en partant de la base qui sont les jeux, mais en venant apporter une dimension beaucoup plus grande.
Et beaucoup de références aussi à l'univers Mario, c'est ça aussi qu'il y avait dans ce film.
Complètement.
C'est qu'il y avait du fanservice aussi, mais on a besoin de ça dans ce genre de film aussi, d'avoir ce genre de référence-là, de easter eggs, comme disait Teki, c'est important.
Bah, c'est hyper important, ça fait 40 ans que Mario est là, ça fait 40 ans qu'on grandit avec, qu'on vit des aventures avec lui, donc forcément, des images dans la tête, on en a plein de jeux différents et on a envie de les retrouver, c'est normal. Et c'est ça qui fait la richesse du film aussi, c'est ça qui fait tout l'amour qui a été mis dedans, même dans l'animation par exemple, dans la séquence où Donkey Kong et Mario se battent ensemble, il y a plein de références à des coups qu'il y a dans Smash Bros, des choses comme ça. Donc c'est là où on est allé chercher dans les jeux et on a ramené aussi une patte beaucoup plus émotionnelle et cinématographique à l'animation.
Daniel, je te vois acquiescer. Alors c'est intéressant parce que tu étais venu il y a quelque temps pour la sortie du dernier Tron Ares. On avait notamment forcément discuté des adaptations de jeux vidéo au cinéma en se disant finalement il n'y avait pas tant de réussite que ça. Super Mario en est une. Tu avais pensé quoi justement toi de celui sorti en 2023, toi qui es justement aussi un énorme fan du jeu vidéo?
Il y a d'abord un truc, c'est que j'ai vu Super Mario à sa sortie et ensuite j'ai vu Super Mario en tant que père. Et donc j'ai dû faire l'explication.
À chaque fois que tu viens, on parle de ton enfant.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui me définit aussi, tu
bien
vois,
sûr, bien sûr. Ah ben c'était pas une critique.
Et surtout, et qui définit aussi ma manière d'appréhender une œuvre. Et je sais que moi, j'avais beaucoup aimé le film. Et je trouvais aussi tout ce truc qu'on voit aussi dans les cinémas américains, c'est-à-dire beaucoup de cues musicales qui sont pas du tout l'univers de Mario, par exemple de I'm a Hero, Beastie Boys, tu vois, de choses comme ça. Et du coup, quand ça arrivait, je me disais ah là on essaie de faire un blockbuster standard. Et en fait, je trouvais que les meilleures séquences, quand le Mario Kart arrive, et pour l'avoir revu 8 fois depuis, donc en russe, puisque je le regarde en version... Et ça, c'est aussi... Je fais une parenthèse, je suis désolé, mais la version française, toutes les versions internationales, c'est un film qui est remarquablement doublé dans toutes les langues que j'ai pu voir. C'est vraiment... Tu sens qu'il y a un vrai effort de mondialiser Mario et de s'adapter tout en gardant exactement la tonalité. Mais donc oui, la scène de Mario Kart, je la trouve absolument extraordinaire parce qu'elle est uniquement dans l'esprit Mario. Il y a toutes les références, il y a tout ce que j'aime. Ouais. Vraiment, je crois que c'est le point d'orgue du film, c'est la scène où ils se montent tous dans les Mario Kart. Quoi. Et puis le final, il dépote pas mal. Quoi. Donc, ouais, impatient de voir le 2, j'ai toujours pas vu le...
T'as pas encore été invité ?
J'imagine qu'il y aura des projets presse, mais tu sais quoi, plus les enjeux sont grands et moins la projets presse est avancée. Alors que le premier, on avait pu le voir un mois avant, je crois qu'on a dû se croiser, on l'avait vu un mois avant parce qu'il n'y avait pas la pression. Là, je sens que le 2, tu sens, il y a un peu plus de...
Il y a un peu plus de
secret industriel.
Forcément, vu le succès du précédent, on continue de parler de Mario jusqu'à 23h. Les amis, je vous ai préparé un petit quiz. Mais il n'y a pas d'enjeu, c'est surtout pour donner des informations sur Mario.
Est-ce qu'on gagne une entrée à l'avant-première du film Mario 2 de Mario?
Non, tu gagnes une bonnette France Inter. Si tu veux. Voilà, tu peux la mettre au studio.
Je vais lutter.
Les techniciens me disent absolument pas. Je sais pas, on verra. Alors, question, mais on y a déjà répondu, mais c'est juste pour le rappeler. Dans quel jeu Mario apparaît-il pour la première fois?
Jumpman.
Donkey Kong.
Donkey Kong.
Ah oui,
c'est le nom, c'est Jumpman, exactement. Et c'est en 1980. Voilà, exactement comme tu dis, Lola. À l'époque, il ne s'appelle pas Mario, mais Jumpman. Pourquoi Mario? Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, Daniel, sans le dire. Pourquoi Mario porte-t-il une moustache?
Ah oui, ça c'était un problème de pour que le personnage soit reconnaissable, vu que c'était que des quelques pixels, il fallait lui mettre une moustache pour qu'il soit bien identifiable.
Exactement, j'ai découvert ça effectivement. C'est la moustache permettait de le rendre le visage visible sur les bornes d'arcade en fait,
tout à fait.
Puisqu'on n'était pas le même niveau de précision à l'époque. Quel est le nom complet que la princesse de la princesse pardon que Mario doit sauver? Elle est technique celle-là un peu. Le nom complet.
Princesse Peach of the Mushroom Kingdom.
J'ai envie de l'accepter.
Pas mal.
C'est pas exactement
Peach
ça.
Peach Mac quelque chose, non?
Non, Peach Toadstool.
Toadstool. Ah, Toadstool.
Et on le voit parce qu'au départ, elle n'est pas Peach. Elle n'est que Princess Toadstool.
Exactement, tout à fait.
On le voit dans l'intro de Mario 64.
Voilà, c'est vrai que c'est aussi ça, il y a toujours eu cette histoire de, je le disais un peu en introduction, maintenant ça semble peut-être un peu désuet, mais aussi de princesse en détresse à aller sauver, ça fait aussi partie du lore de Mario, quoi, cette histoire-là.
Dans quel Sorry, jeu... Mehdi Maizy, but your princess is in another castle.
Dans quel jeu Luigi apparaît-il pour la première fois?
Mario Bros.
Mario Bros, ouais. Exactement.
Ah oui.
En 1982.
Et pas Super Mario Bros.
Et pas Super Mario Bros.
C'était le deuxième player.
Tout à fait. Quel est le record du monde de speedrun de Super Mario Bros et les yeux bandés? Donc speedrun, Daniel, si on peut expliquer, c'est finir le jeu le plus
finir
rapidement possible.
Finir le jeu le plus rapidement possible, oui.
Super Mario Bros, donc le jeu de 1985, si je ne dis pas de bêtises.
Avec glitch ou sans glitch?
J'ai pas l'info.
Les
yeux bandés.
Ah, les yeux bandés.
À votre avis.
Et juste finir un run?
Ouais.
4 minutes.
Ah, t'es un peu... t'exagères.
J'aurais dit... Mais...
14 minutes 46.
Ah.
Et est-ce que...
Qu'est-ce qu'il fout?
Vous qui connaissez bien le jeu, vous pouvez le finir rapidement?
Ah non, mais moi je le finis pas déjà.
Il
y a un mythe, c'est que je suis un gamer. Je suis pas du tout un gamer. Je suis nul. J'adore jouer aux jeux vidéo, mais je suis nul. Donc là, en ce moment, mon cousin cuisinier, on lui fait un petit shout-out au passage, m'a offert une sorte de version portable, justement, sous forme de Game & Watch, mais avec... Le Super Mario Bros 1 tel qu'il était sur NES. Et j'y joue entre deux mails toute la journée. Il est sur un côté de mon bureau. C'est un peu le truc l'anti-stress, tu vois.
Ok.
Et j'arrive pas à passer le niveau 6, quoi.
Ok.
J'essaie de le faire sans Warp Zone.
C'est ok.
J'essaie de le faire sans Warp Zone. J'arrive pas à passer le niveau 6.
Même ça avec les rewind. Ah, il n'y a pas de rewind sur un truc.
Non.
Comme ça.
Non.
Qui a composé la musique mythique de Mario qu'on peut entendre d'ailleurs là?
Koji Kondo.
Koji Kondo, exactement. Est-ce que c'est une des musiques de jeux vidéo les plus célèbres, celle-ci?
Oui.
Ah, franchement, oui.
Je pense, hein.
Ouais.
Vraiment, elle est vraiment complètement iconique et j'ai pas l'impression, pour quelqu'un comme moi qui est pas un gamer, même si j'ai un peu joué, c'est vraiment le thème qui me semble le plus iconique issu d'un jeu vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oh, mais moi, je suis d'accord à 100%. Je vois pas qu'est-ce qui serait plus emblématique dans un autre jeu que ça, quoi.
C'est Mario.
Ouais. Non, c'est Mario. C'est Koji Kondo en plus, en vrai.
Ouais.
Globalement, c'est lui aussi qui compose tous les Mario qui suivent, à part les Mario Land, si j'ai pas de bêtises. C'est un génie le mec.
Ouais.
C'est un génie et il a fait Zelda aussi. Zelda est très iconique aussi. Hein.
Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, oui.
C'est vrai. Mais j'ai l'impression, alors encore une fois, que c'est moins fédérateur que Mario. Tout le monde a joué à Mario, je suis pas sûr que tout le monde ait joué à Zelda.
Ouais, je pense.
J'ai ce sentiment-là.
Ouais.
Après, il faut voir les kids qui ont été élevés, les générations Breath of the Wild et tout ça.
C'est vrai.
Il y a toute une génération de kids qui ne jurent que par ça et ne joueront qu'à ça.
Peut-être.
Et qui les a, et surtout le dernier, Tears of Kingdom, du coup, ça les a mind préparés à toute la construction, tu vois, les constructions d'objets et tout, c'est Minecraft un peu, tu vois, donc je jurerai pas sur le futur, mais,
okay. Oui, non,
mais Zelda est très 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 puissant et très iconique.
Ouais, mais en tout cas, la musique, pour ce qui est de la musique, c'est sûr que ce morceau, qui est d'ailleurs inspiré, Koji Kondo, c'est inspiré d'un truc de jazz un peu tropical, je sais pas, il y a un morceau... Si tu remontes la source, il y a un morceau qui existe, qui a clairement été pompé par Koji Kondo pour faire. Je l'ai pas en tête.
Oui,
là,
oui.
Pas,
on va le retrouver.
C'est pas, il l'a pas inventé ex nihilo, quoi.
Oui.
Il y a des influences géniales de ce morceau.
Une dernière. Quel est le jeu Mario le plus vendu de l'histoire, à votre avis?
64.
Non.
Non, pas 64. Ça serait.
Daniel, il peut l'avoir, là.
Et ça serait pas Super Mario Bros, alors?
Non. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est Mario Kart 8.
Ah oui, mais
c'est Mario
Kart
8.
Ah bah oui, mais on n'en a pas parlé.
Ouais.
C'est vrai qu'on a parlé un peu des spin-offs, etc. C'est mine de rien, c'est peut-être le personnage qui a le plus de spin-offs dans issu d'un jeu vidéo. Et il y a aussi tout l'arc. Il y a des gens qui n'ont jamais joué, je pense, aux jeux de plateforme et qui ont joué uniquement Mario Kart.
Ceux qui ont joué qu'à Smash Bros.
Enfin, tout à fait.
Il y a plusieurs portes d'entrée.
C'est assez incroyable quand même.
Mario Kart, fondu, ils l'ont sorti au bon moment sur la bonne console à la sortie de la Switch.
Ouais.
C'est un des jeux de Nintendo les plus vendus dans le monde. Ouais.
Bon. On continue de parler de Mario un peu après. On va d'abord s'écouter un morceau qui est en playlist France Inter. C'est le morceau de Nino featuring Chacola, Les Diamants de Bokassa. Et juste après, on va réfléchir au futur du personnage de Mario.
Oh là là, je suis en mode avion. Paycash, on va se déplacer. Un peu de chance, c'est un don de Dieu. Ils essayent, mais ne peuvent pas remplacer.
Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Bokassa.
J'suis trop tricks, moi j'pense qu'à ça. Des grosses briques tant t'es gros que ça. Gros poisson comme que franc. Jeunesse drôle, mais bon, c'était ma casse. Grosse coupure, magasin. Le bel trouve ça fantastique. Et j'ai tout mis dans tes mains, j'ai un plan plein de verre dans des sacs plastiques.
Ne t'inquiète pas, je monétise. Ma baby veut que tu ailles dans ses piges. Ça fait longtemps qu'on maîtrise. Y'a les haters, la rue, puis y'a le fisc. Vu d'en haut, tout est pacifique. Tu hublot, une vie magnifique. Un peu trop chacal ici. Ils en veulent à mon rallye ici.
Oh là là, j'suis en mode avion. Paye cash, on va se déplacer. Un peu de chance, c'est un don de Dieu. Ils essayent, mais ne peuvent pas remplacer.
Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Bokassa.
J'suis bloqué là, mais j'me dois d'avancer.
J'suis bloqué là, mais j'peux plus reculer.
Quand c'est chaud, ça veut plus rappeler.
C'est toi qui dois, mais je dois te relancer.
Le seum qui monte, j'me suis alcoolisé.
Et sur la route, j'ai mis un peu d'excès.
Ramène-nous une famille dans le Tokyo.
Quelques grammes, des grosses peines sur la bouquille.
Nino, Chacola, donc les diamants de Bokassa, morceau en pays sur France Terre, et donc présent sur le dernier projet de Nino, MILS4.
Midi Maizy sur France Inter.
Alors, le futur de Mario, c'est quoi? On l'a dit, bien sûr, il y a le film qui sort en avril sur lequel, Lola, tu as travaillé, mais comment vous imaginez un peu le futur, vous, de Mario? On parle de cinéma, on parle de parcs d'attractions, de nouveaux jeux. Est-ce que vous pensez que Mario, évidemment, on parie un peu sur le futur, va continuer à être toujours aussi pertinent dans le futur? Toi qui suis Mario, qui t'accompagne depuis aussi longtemps, est-ce que tu te vois continuer à évoluer avec lui? Comment tu vois le personnage continuer à prendre forme?
Moi, je vois mon futur à moi.
Ouais.
Mon futur à moi, c'est d'arriver à retourner au Japon, où je suis pas allé depuis le confinement, et d'aller à Osaka, et d'aller au parc Super Nintendo.
Ouais.
Et je peux te dire que quand je vais me retrouver, nez à nez, avec un cast member de Universal Park, japonais de, je sais pas, tu vois, genre, probablement d'une vingtaine, trentaine d'années, dans un costume mascotte de Mario, pour moi, c'est comme si je renouais avec quelqu'un de ma famille.
Ouais.
Tu vois, quand je vais me retrouver face à face. Tu sais, comme les enfants qui vont chez Disney et qui voient Mickey, pour eux, c'est Mickey.
Tu vois ce que je veux dire?
Ou qui voient la Reine des Neiges, et pour eux, c'est Elsa.
C'est Elsa.
Tu vois? Ben moi, si je vois Mario, je vais chialer, je vais le prendre dans mes bras, et c'est Mario, quoi. Si je vois un tout petit Toad, là, qui vient, qui bouge son derrière, là, qui fait des petites danses, tu vois, dans les parcs, le petit mec déguisé en Toad, là. Je vois un petit Toad, là, je vais être trop content. Je vais avoir l'impression de voir les gens avec qui j'ai grandi. J'ai l'impression que c'est la réunion de mes cousins, quoi. Tu vois, genre laisse tomber, quoi. Ça, je veux vraiment le vivre. Donc ouais,
j'ai envie que tu le vives, moi aussi.
Ouais, mais les parcs d'attractions, il faut qu'ils pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'attractions. Il y en a une nouvelle tous les 2-3 ans. Il faut qu'il y ait une vraie immersion, il faut qu'il y ait un vrai truc, et il faut que je débarque là-dedans et que je me le prenne en pleine gueule. Et là, je pourrais mourir tranquille.
Daniel, toi qui es, mais le plus tard possible, comme disait Thierry Roland.
Exactement.
Mais Daniel, toi qui es allé au Japon plusieurs fois, est-ce que tu es déjà allé dans ce parc?
Je suis allé et au parc et au musée.
Ah. Oh là là.
Alors, c'était comment? Est-ce que t'es qui peut vivre le fantasme qu'il vient de décrire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable?
Est-ce que tu veux que je brise les rêves d'un enfant, c'est ça?
Oh non.
Est-ce que tu veux que je...
Non, surtout pas.
Ouais, le parc fait 2 mètres carrés, c'est ça?
Le parc est petit.
Ouais.
Enfin, c'est une enceinte dans un autre parc. Ouais. En fait. Donc, c'est une petite portion. Ensuite, il y a un autre truc, et je plaide coupable. Je n'aime pas les parcs d'attractions.
Ah, ok. Ouais.
Je déteste les parcs d'attractions.
Ouais, mais
et...
là, on ne peut pas parler.
Ben ouais, et ensuite, quand tu t'assieras, parce que c'est ce qui va t'arriver, mon petit Tétiki, tu vas t'asseoir dans le trolley Yoshi. Tu vas être avec un Yoshi et ça va à 2 à l'heure et ça dure 30 secondes.
Ah ouais, okay.
Et c'est pour les petits-enfants.
Ouais.
Alors...
Ouais, mais moi, petits enfants comme moi.
Oui, non, mais est-ce que Small World, est-ce que c'est, tu vois,
ouais, moi, tu me fous dans dans It's a Small World.
Ça, c'est l'attraction de Disney à Disneyland.
Alors, peut-être. Alors,
je chante
peut-être
les paroles.
Que... Mais est-ce que
par cœur, et je chiale. Il y a des vidéos de moi chialant dans It's a Small World, pas plus tard que pour mon anniversaire que j'ai passé à Euro Disney.
Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que t'es un homme qui pleure, et ça, c'est beau, ça. Tu pleures régulièrement, t'as pas peur de ça.
C'est une chialade un peu réflexe.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, qui n'est pas... Je ne parlerai pas de mes vrais pleurs, qui sont des choses bien plus personnelles, bien plus deep. Mais j'ai une petite chialance nostalgique. Oh putain, ça y est! Quand j'écoute certains morceaux,
ouais.
quand je vis certaines situations, il y a une petite... ça monte.
Très bien.
Mais ce que je te conseille, moi, c'est d'aller au musée Nintendo qui a ouvert ses portes pas loin de Kyoto.
Ah, génial.
Alors, il faut se lever de bonne heure pour avoir des places et tout, mais je t'expliquerai la billetterie, tout ça, machin. On va s'arranger avec les cousins, de Kyoto. Et ça, c'est plutôt... c'est assez intéressant. Si tu as la charge nostalgique de voir les jeux que tu possédais avant ou que tu possèdes peut-être encore, mais derrière une vitrine, et en plus mis un petit peu dans un contexte où on te remémore les trucs, tu vas voir les prototypes de la N64, tu vas voir les prototypes de la Super Nintendo, ça c'est peut-être plus intéressant pour toi.
Daniel, Lola, t'es qui? C'est l'heure de la question qui tue.
Ah, mon album.
Non mais, vous y avez déjà un peu répondu. Lola, je commence avec toi. Quel est ton jeu Super Mario préféré? Ce sera la question que je pose à chacun, évidemment.
Moi, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est Mario Galaxy.
Ouais.
C'est, ouais, celui avec
pour
qui
toi,
je... ouais.
C'est le meilleur.
Ouais, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui avec lequel moi j'ai ressenti les émotions les plus fortes. J'ai adoré découvrir ce jeu. Il est superbe, les musiques sont ouf, et honnêtement, c'est tout ce que j'aime de Mario dans un jeu, quoi.
Daniel.
Désolé à l'enfant qui a découvert Super Mario Bros. À l'époque et qui pensait que Super Mario Bros. Était indépassable. Ensuite, il y a eu Super Mario World. Mais honnêtement, Super Mario 64, toute la putain de grammaire du jeu vidéo est là. Tout ce pourquoi on est là est dedans. Et dans ce jeu, je comprends que les mecs qui ont fabriqué ce jeu se sont dit il y en a certains qui vont s'arrêter parce que là, c'est trop dur. Je peux comprendre, c'est un jeu tellement absolu que je trouve ça encore grandiose, et il est pratiqué encore à haut niveau. Les gens qui font des speedruns et tout, c'est vraiment un jeu parfait. Parfait, c'est rare de dire ça, mais c'est vraiment une perfection absolue.
Teki, tu nous as donné tout à l'heure ton amour notamment pour Super Mario Odyssey. Est-ce que c'est ton jeu Mario préféré ou est-ce que tu en as un autre, toi?
Oui, Super Mario Odyssey est mon jeu Mario préféré. Mais la raison pour laquelle Super Mario Odyssey est mon jeu préféré, c'est beaucoup de fanservice. C'est parce qu'il fait référence à des Mario. Ouais. Il court. Il marche parce que... Non, comment on dit déjà?
Oui. Il court parce que les autres ont marché.
Exactement.
C'est ça. Hein.
Ouais. Mais si tu veux
remonter... Les autres ont marché pour qu'il puisse courir.
Ouais, voilà, exactement. Exactement. Donc, si tu remontes un petit peu le fil, tous les jeux Mario m'ont marqué. Mais je me souviens particulièrement de Mario World, que je n'avais pas parce que je n'avais pas de Super Nintendo, parce que j'étais aussi par dépit un gars de Sega à cette période-là, et que j'avais une Mega Drive, et que je ne retrouvais pas
la cuteness, la mignonnerie, la kawaiirie des jeux Nintendo sur Mega Drive, et c'était mon grand désespoir. Étant donné que la Mega Drive est sortie un petit peu avant la Super Nintendo en France, donc on était là, on attendait, on salivait devant des images chopées dans les magazines de Super Mario World, et le fait de pouvoir monter sur un dinosaure qu'est Yoshi, le fait de pouvoir toutes les choses, toute la map, la carte avec les secrets, toute la profondeur de ce jeu, hein, des musiques comme celle du château qui est une musique à l'orgue incroyable qui me prend aux tripes, qui est une des musiques préférées de Mario, de tout l'univers Mario. Super Mario World, c'est incroyable, et ça j'y rejoue avec plaisir.
Très bien. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup Lola Carrizo, qui donc est animatrice et a travaillé sur les films, notamment le prochain, qui arrive en avril. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci Daniel, qu'on retrouve notamment au sein du podcast
Soumis ma scène turbo.
Voilà.
Je vais y arriver. Un jour. J'arrive à dire à la régulière, tu pourras y arriver.
Et merci Teki, qui est venu alors qu'il vient de jouer toute la nuit, samedi dernier, en light long légendaire. Donc merci d'être venu ici, nous dispenser un peu ta passion autour de Mario. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, préparée par Alexa Lacour et Edouane Tella, réalisée par Amazir Amada in Guest. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert et Juliette L'Orphelin. À la technique ce soir, c'était Enzo d'Hospital et Thomas Allard. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons dans cette émission, même heure, avec James Blake, qui viendra présenter son dernier album, enfin son nouvel album, Trying Times. À demain.